Il suffit de se représenter une force combattante acculée dans l'une des chaînes de montagnes les plus hostiles de la planète.
C'est une image frappante, en effet.
Une force totalement dépourvue, disons, de soutien logistique international, dénuée de tout parrainage étatique et luttant contre un régime disposant d'un arsenal militaire hérité d'une superpuissance.
Selon toute logique stratégique conventionnelle, une telle entité devrait être vouée à une disparition très rapide.
Absolument. Pourtant, les documents qui font l'objet de la présente plongée au cœur des sources brossent un tableau radicalement différent. L'heure est venue de procéder à une nouvelle analyse approfondie.
Je vous rejoins.
Le sujet qui retient l'attention aujourd'hui exige une rigueur intellectuelle absolue. Il s'agit d'une étude minutieuse, d'une série de chroniques, de rapports détaillés et de discours récents, des textes documentant de l'intérieur la résistance afghane face au régime des talibans.
Une documentation pour le moins exceptionnelle.
L'examen portera tout particulièrement sur le front de la liberté de l'Afghanistan, qu'il conviendra de désigner rigoureusement par son acronyme officiel, l'AFF, ainsi que sur le front de résistance nationale, le NRF.
L'ampleur et la gravité de cette thématique sont en effet remarquables. La mission de cette analyse consiste à décortiquer la structure organisationnelle, la doctrine militaire, les fondements idéologiques profonds et, je dirais, les dynamiques d'alliance qui caractérisent aujourd'hui cette résistance.
C'est un vaste programme.
Assurément. Et avant d'entamer l'examen de ces archives, la méthodologie qui encadre cette démarche exige un rappel solennel. L'approche adoptée ici repose sur une restitution purement objective et impartiale des faits.
Des faits qui sont bien entendu tirés exclusivement des documents fournis.
Précisément. Il ne s'agit en aucune circonstance d'une prise de position politique, ni d'un quelconque cautionnement idéologique envers les acteurs mentionnés. L'objectif demeure strictement analytique. Comprendre les stratégies sans jamais s'en faire les porte-voix.
Ce préambule essentiel étant clairement posé, l'exploration des textes peut débuter. Pour appréhender véritablement la force motrice et l'armature idéologique qui anime la FALF à l'heure actuelle, les sources indiquent qu'il est impératif de se tourner vers un événement précis.
Un affrontement survenu en avril 2023, n'est-ce pas ?
Exactement. Un événement qui s'est progressivement transformé en un véritable mythe fondateur pour l'organisation. Au centre de ce récit se trouve le général Akmal Amir.
Les rapports consultés décrivent un parcours particulièrement singulier le concernant. Un ancien officier supérieur des forces de sécurité de la République afghane qui a ensuite pris le commandement au sein de la FAF.
Et plutôt que de choisir la voie de l'exil, une option qui lui était parfaitement accessible, il a pris la décision délibérée de retourner combattre, directement sur le sol afghan, au cœur des reliefs escarpés de l'Hindou Kush.
Les documents mettent en lumière la dimension hautement patriotique attribuée à ce choix par ses pairs. Il disposait, en fin de compte, des moyens matériels et des réseaux nécessaires pour s'établir confortablement à l'étranger.
À l'instar de nombreux autres dignitaires de l'ancien régime.
Tout à fait. Toutefois, son retour physique sur le théâtre des opérations marque une rupture décisive. Ce n'est plus une résistance théorique, mais un engagement charnel et extrêmement périlleux.
Il convient d'analyser ceci en détail, car cette décision porte en elle une résonance symbolique qui transcende la simple anecdote militaire.
Je vous écoute.
L'analogie historique, qui émerge naturellement à la lecture de ces faits, est celle de la stratégie navale des, disons, des vaisseaux brûlés.
Une image très forte.
En refusant sciemment l'exil et en se replaçant dans un environnement par essence létal, le général Amir a symboliquement détruit toute possibilité de retraite.
Il a muté sa lutte en un engagement absolu, ce qui force inévitablement le respect de ses troupes sur le terrain.
Les archives précisent d'ailleurs que ce destin s'est accompli dans le district du Salang, situé dans la province de Parwan. Cette zone est qualifiée de premier front par l'AFF.
C'est effectivement en ce lieu qu'une offensive talibane massive et particulièrement meurtrière a eu lieu.
Et c'est lors de cet affrontement que le général a trouvé la mort.
Ce qui est particulièrement fascinant ici, c'est l'observation des mécanismes de construction narrative post-mortem opérés par la résistance.
Comment cela se traduit-il concrètement dans les textes impalants ?
Lors de cette violente offensive, le général Amir a péri aux côtés de 6 compagnons d'armes. Et les documents prennent un soin minutieux à les identifier formellement.
Il s'agit de Bazir Andarabi, Fahim Salanghi, Boran Andarabi, Kurban Ali Bamiani, Sabour Faryabi et Hossein Samangani, si je me réfère aux notes.
C'est exact. Et l'énonciation de ces noms n'est pas un simple exercice d'archivage. C'est un acte véritable de sanctuarisation.
Car d'un point de vue strictement tactique, perdre un tel commandant représente une défaite opérationnelle très sévère.
Absolument. Un coup très dur pour les capacités de commandement de l'AFF. Néanmoins, la direction du mouvement, sous l'égide du général Yassine Zia, a refusé d'en rester à cette lecture comptable.
La disparition de ces combattants est désormais qualifiée de martyr dans la communication officielle.
L'événement est élevé au rang de pacte sacré. Il devient le socle sur lequel l'AFF justifie la légitimité inébranlable et la continuité de son combat.
Cette transformation de la défaite tactique en victoire idéologique prépare le terrain pour l'examen du deuxième grand axe des sources.
Le sang versé dans la vallée du Salang ne s'est pas taré dans l'isolement de ces montagnes, en effet.
Au contraire, il agit à présent comme un catalyseur puissant, engendrant une dynamique d'unification politique assez inédite entre diverses factions armées.
Les rapports font état d'un événement virtuel pour le moins singulier, l'organisation d'une commémoration en ligne via la plateforme Zoom.
Pour le troisième anniversaire de ces événements tragiques.
C'est cela, un rassemblement numérique qui n'a pas seulement réuni les cadres de l'AFF, mais également les hauts dirigeants du NRF, le Front de Résistance Nationale.
Et Ahmad Massoud, dirigeant du NRF, y a prononcé un discours très remarqué, insistant sur des développements en cours.
Des développements qui, selon lui, pourraient débloquer l'impasse stratégique actuelle. Il affirme que seule une coordination totale permettrait d'en tirer un quelconque avantage.
L'utilisation d'une plateforme de visioconférence pour orchestrer une alliance militaire peut paraître, de prime abord, quelque peu anachronique.
Ou même dérisoire, si l'on y songe de manière purement conventionnelle.
Exactement.
Cependant, les textes démontrent que cette rencontre transcende le simple recueillement. Elle constitue une démonstration publique d'alignement politique.
Dans un contexte où la géographie et la répression interdisent tout grand rassemblement physique clandestin.
C'est un point crucial. Le discours d'Aman Massoud, rejoint par le général Yassine Zia, qui plaide avec véhémence pour une union réelle des courants anti-talibans, révèle une tentative manifeste de structuration d'un front commun.
C'est précisément ici que la situation devient des plus captivantes.
Je pressens une critique sous-jacente.
En effet, la lecture analytique de cette insistance dramatique sur la cohésion amène inévitablement à formuler une interrogation. Si ces figures de proue éprouvent le besoin de marteler avec une telle ferveur l'urgence vitale de l'unité...
Et en se réunissant à travers des écrans interposés, qui plus est...
Voilà. Cela ne constitue-t-il pas l'aveu flagrant de leur plus grande faiblesse? L'insistance même sur cette alliance ne trahit-elle pas le fait que la fragmentation interne a été, jusqu'à présent, la cause principale de leur marginalisation?
L'étude de la sociologie des conflits afghans donne tout son poids à cette hypothèse.
C'est indéniable.
Historiquement, l'hyperfocalisation sur des intérêts régionaux ou ethniques a fréquemment désintégré les coalitions de l'intérieur.
Ce que les discours de Massoud et Zia traduisent à travers ces documents, ce n'est donc pas l'atteinte d'un idéal pacifiste abstrait.
Nullement. C'est une prise de conscience strictement existentielle. Si nous relions cela au contexte global de l'asymétrie des forces, l'unité est désormais théorisée non plus comme un avantage stratégique optionnel,
mais bien comme une condition sine qua non de survie pure et simple. Sans cette mutualisation des ressources, chaque front risque l'annihilation isolée.
Et la volonté de matérialiser cette survie se lit d'ailleurs clairement dans la doctrine opérationnelle adoptée sur le terrain.
L'examen des sources révèle que l'AFE ne cherche pas du tout à reproduire les schémas d'une armée conventionnelle.
Ses dirigeants s'articulent autour d'un objectif déclaré, à savoir la libération totale du territoire afghan. Toutefois, la méthodologie pour y parvenir frappe par sa singularité.
Le premier pilier de cette doctrine est une autonomie que l'on pourrait qualifier d'absolue.
L'AFLF affirme formellement ne dépendre d'aucune nation étrangère, ne percevoir aucun financement étatique extérieur et s'en remettre exclusivement au soutien de la population locale.
Le second pilier repose sur une stratégie de dispersion et de harcèlement continu.
Plutôt que de concentrer ses effectifs dans le bastion du Salang pour y mener une guerre de position suicidaire.
Précisément, l'AFLF dilue ses forces, menant des opérations de guérilla dans de multiples provinces afin d'exposer la vulnérabilité de l'appareil sécuritaire adverse.
La logistique inhérente à une telle stratégie de dispersion mérite d'être explicitée, me semble-t-il.
Assurément. Mener une guérilla sans ligne d'approvisionnement sécurisée depuis l'étranger implique une dépendance totale à l'égard de l'économie de guerre locale.
La récupération de matériel sur l'adversaire et la protection offerte clandestinement par des civils.
C'est à ce niveau qu'intervient le code de conduite de l'AFF, largement mis en avant dans les sources. Il exige une stricte inclusivité ethnique et sociale, ainsi qu'une protection rigoureuse des civils.
Dès lors, quelle est la signification profonde de ces événements tactiques et de cette charte de conduite?
C'est une question centrale. Pour rendre cette organisation intelligible, l'analogie de l'arbre imposant avec un tronc massif doit être écartée au profit d'une image plus subtile.
Laquelle proposeriez-vous ?
La structure de l'AFF s'apparente davantage à un système racinaire étendu sous la terre. Ce maillage ne présente pas de cible centrale qu'une force de frappe ennemie pourrait facilement localiser et abattre.
Je vois. Il s'étend en profondeur, discrètement, se nourrissant du mécontentement populaire.
Et lorsqu'il frappe, c'est de manière éphémère, déstabilisant les fondations du régime de l'intérieur. C'est l'essence même de l'insaisissabilité.
Cette métaphore des racines clandestines illustre parfaitement la mécanique de résilience de la guérilla moderne.
N'est-ce pas ?
Cependant, l'étude de ce mode opératoire révèle un paradoxe tout à fait saisissant.
Quel est-il ?
Dans la quasi-totalité des insurrections contemporaines, l'absence de soutien étatique étranger constitue une faille logistique fatale.
C'est généralement une condamnation à mort pour un mouvement armé.
Or, le corpus documentaire montre que le général Zia opère un renversement discursif complet de cette vulnérabilité. Cette carence est revendiquée comme une preuve d'authenticité.
L'absence d'ingérence étrangère garantit l'indépendance de leur prise de décision, en somme.
Tout à fait. Ils érigent cet isolement matériel en source ultime de leur légitimité nationale. Ils ne sont les mercenaires de personne.
Cette rhétorique de la légitimité ouvre naturellement la voie à l'examen de la guerre de l'information, un domaine où les hostilités sont tout aussi féroces que sur le terrain militaire.
Les sources démontrent que les dirigeants de la résistance mènent un combat acharné contre la communication officielle du régime en place.
Les textes dénoncent systématiquement ce qu'ils nomment la propagande organisée des talibans.
Une propagande qui s'efforce de dépeindre aux yeux de la communauté internationale un Afghanistan pacifié et stable.
Pour fissurer ce narratif de normalité sécuritaire, le général Zia apporte dans ses discours des données chiffrées destinées à provoquer une onde de choc.
Il révèle de manière assez glaçante que plus de 20 000 anciens membres des forces de sécurité de l'ère républicaine se trouveraient actuellement emprisonnés et soumis à la torture.
La diffusion de cette estimation de 20 000 prisonniers n'a rien de fortuit, j'imagine.
Évidemment non. Elle vise un double objectif. Premièrement, déconstruire intégralement le mythe de l'amnistie générale promise lors de la transition du pouvoir.
Et le second objectif ?
Envoyer un signal clair à l'ensemble des anciens militaires encore en liberté, leur signifiant que la reddition pacifique n'offre aucune garantie de survie.
L'exploitation de ces faits s'articule également autour d'une rhétorique du contraste. Le général Zia souligne la contradiction béante dans le comportement du régime.
D'une part, il pointe la clémence dont font preuve les autorités lorsqu'elles relâchent un citoyen américain.
Pour justifier de fausses narrations et quémander une reconnaissance internationale.
D'autre part, il dénonce l'opacité absolue opposée aux milliers de mères afghanes privées de leurs proches.
Mais l'analyse de ces discours réserve une dimension plus inattendue encore. Le réquisitoire le plus virulent du général Zia ne s'adresse pas uniquement aux talibans.
Il cible avec une sévérité implacable certaines figures politiques majeures de l'ancien gouvernement de la République.
Il les accuse de s'être enfuis, d'avoir dilapidé les ressources nationales et de continuer à exacerber les divisions ethniques. Les textes mentionnent même des accusations de collusion financière avec les services de renseignement adverses.
Ceci soulève une interrogation fondamentale quant à l'équilibre diplomatique interne de l'opposition.
Comment cela ?
En attaquant si frontalement les élites de la FFA, ne prend-il pas le risque d'aliéner des réseaux de financement potentiels ou des soutiens occidentaux ?
L'objection est d'une grande rigueur analytique. Une telle démarche de confrontation interne semble contredire le principe d'unification évoqué précédemment.
Pourquoi exiger l'union sacrée d'un côté pour fustiger si violemment d'anciens alliés de l'autre ?
L'hypothèse qui émerge est celle d'une volonté assumée de purification stratégique. Pour les commandants de la FF, il apparaît inconcevable de restaurer un système politique qui a provoqué l'effondrement du pays.
Les textes corroborent amplement cette hypothèse. La résistance afghane estime être engagée dans un conflit à double dimension.
Le premier front étant militaire contre l'ennemi en place.
Et le second front est intrinsèquement moral. Il s'agit d'une bataille pour éradiquer les démons internes de l'Afghanistan, à savoir la corruption et la division ethnique.
Vaincre le régime actuel serait une victoire creuse si cela devait aboutir à la restauration des élites compromises.
L'heure est désormais à la synthèse solennelle des nombreux éléments extraits de cette somme documentaire.
Une conclusion assez claire se dessine au fil de cette lecture. En effet, la FSF et ses alliés émergent des sources non pas comme des vestiges vaincus, mais comme une résistance en pleine mutation.
Une rébellion qui cherche l'unité, prône une autonomie absolue et bâtit sa légitimité sur le sacrifice de figures comme le général Akmal Amir.
L'observation de cette résilience invite l'auditoire à une prudence épistémologique essentielle.
Cela démontre à quiconque étudie la géopolitique qu'il faut toujours se méfier des narratifs officiels dépeignant des régions entières comme pacifiées.
Car de complexes réseaux de résistance peuvent y opérer en profondeur.
Absolument. Ils redéfinissent silencieusement les règles de l'engagement asymétrique.
Pour clore cette analyse approfondie, il semble pertinent de soumettre une ultime réflexion à l'esprit analytique de l'auditoire.
Je vous en prie.
Si ce mouvement de résistance parvient réellement à bâtir une coalition multiethnique, unie et totalement indépendante de toute ingérence étrangère...
Ce qui serait, notons-le, un exploit que la communauté internationale a échoué à accomplir en 20 ans.
Précisément. Cet isolement forcé ne serait-il pas, paradoxalement, le véritable creuset d'une future identité afghane souveraine ?
Une perspective qui mérite indéniablement d'être longuement méditée.
Cette plongée au cœur des sources est à présent terminée. Des salutations empreintes du plus profond respect sont adressées à l'auditoire pour l'attention rigoureuse accordée à l'étude de ces enjeux d'une complexité majeure.